un téléphone portable souple, une batterie comestible, des vêtements refroidissants ou auto-nettoyants, ou encore des médicaments ciblés qui délivrent leurs produits directement à l'endroit où il fait effet. Ce sont quelques-unes des applications rendues possibles demain par la recherche sur les matériaux du futur. La recherche sur ces nouveaux matériaux est pléthorique, mais le chemin jusqu'à leur application dans la vie quotidienne est souvent semé d'embûches. Quels seront les matériaux de demain? C'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet éventail de nouveaux matériaux et de leurs applications, nous avons le plaisir de recevoir Yves Bréguet. Bonjour.
Préchet, pardon.
C'est mon ordinateur qui a ripé, quelle honte. Vous êtes physicien et chimiste, membre de l'Académie des sciences. Vous êtes enseignant en sciences des matériaux à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Et nous sommes avec François Parmentier, c'est correct?
Toujours, oui, ça c'est
fois-ci.
Bon.
Décidément, mon clavier me joue des tours. Chercheur CNRS au laboratoire service de physique de l'état condensé. Et vous travaillez notamment sur les propriétés électriques du graphène. On en reparlera tout à l'heure. Alors avant de rentrer dans le dur du sujet, je donnais quelques exemples en ouverture d'applications concrètes de ces nouveaux matériaux. Selon vous, quelle est la prochaine application la plus prometteuse, celle qui est à votre avis sur le point d'aboutir et qui pourrait changer notre quotidien? Yves Bréchet, pour commencer.
Dans quel domaine?
Dans le domaine que vous voulez, celle qui vous paraît la plus saillante.
Ce qui me semble extrêmement prometteur, c'est moins un matériau en particulier qu'une nouvelle manière de regarder les matériaux. C'est-à-dire le fait de penser le matériau en fonction de son cahier, du cahier des charges où on veut l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est rendu possible par la maîtrise qu'on a de la connaissance fondamentale des matériaux. Donc, c'est comme ça qu'on va fabriquer des isolants acoustiques qui seront particulièrement pertinents pour un certain spectre de bruit, qu'on va fabriquer des conducteurs qui vont pouvoir avoir une certaine souplesse pour pouvoir permettre d'être à la fois transparent, flexible pour le photovoltaïque. Je pense que ce qui est vraiment nouveau, enfin au moins dans un certain nombre de domaines que je connais, industriels, c'est la capacité de fabriquer le matériau sur mesure.
Et selon vous, François Parmentier, sur le graphène ou sur d'autres applications?
En fait, même au-delà du graphène, et je suis assez d'accord avec Yves là-dessus, surtout dans mon domaine des sciences fondamentales, on se rend compte qu'il y a énormément de matériaux qui ne sont pas tellement nouveaux, parce qu'on finalement on connaissait leur existence depuis des décennies déjà, et l'avancée de la connaissance sur ces matériaux nous ont permis de nous rendre compte qu'en fait, ils avaient énormément de propriétés qu'on ne connaissait pas, qui sont extrêmement utiles. Et donc le graphène en est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui ont des noms encore plus exotiques que le graphène, dans lequel je ne vais peut-être pas rentrer.
Allez-y, donnez-nous un exemple.
Il y a par exemple les isolants topologiques, qui est un domaine qui est extrêmement actif en ce moment en recherche fondamentale, et qui par exemple s'intéressent à des matériaux comme le bismuth de disélénium, encore un nom un peu barbare, le cristal est très joli, qui en fait était très connu depuis les années 60-70, et on s'est rendu compte, il y a quelque chose comme un peu moins de 10 ans, qu'il avait des propriétés électroniques et optiques qui étaient tout à fait extraordinaires.
Ce que vous nous dites, en fait, François Parmentier, c'est que les matériaux de demain, en fait, c'est les matériaux d'hier, mais qu'on regarde, qu'on découvre avec un œil nouveau et dont on découvre des propriétés inédites et qui ne nous apparaissaient pas jusqu'à présent. C'est Yves Bréchet?
Tout à fait. C'est aussi, avec l'autre versant, qui est qu'on utilise rarement un matériau pour une propriété. On utilise un matériau pour un ensemble de propriétés qui le rendent utilisable pour une application donnée. Donc ça veut dire qu'il faut penser aussi les matériaux en termes de mise en œuvre, en termes de procédés qui sont capables de les mettre en œuvre. Et je pense qu'il y a des révolutions à attendre dans ce couplage fort entre le matériau et le procédé dans une optique d'application.
François Parmentier?
Il y a effectivement plusieurs avancées, en tout cas, je me réfère toujours par rapport à mon domaine, où il y a essayé de comprendre comment marche un matériau qu'on connaissait déjà, comment est-ce qu'on peut l'associer à d'autres matériaux qui sont assez nouveaux. Mmh. Et il y a beaucoup d'avancées qui sont faites en finalement faisant des matériaux nouveaux, en combinant des matériaux qu'on connaissait déjà, et qu'on connaissait déjà, dont on découvre des nouvelles propriétés, on se rend compte que quand on prend ces espèces de matériaux nouveaux, entre guillemets, qu'on les combine, là on a quelque chose d'encore plus nouveau.
C'est des matériaux hybrides en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, c'est hybride et en fait, c'est très très riche et quelque part ça n'en finit jamais. Quoi. On fait vraiment des assemblages de plus en plus complexes de...
Alors, on va redéfinir avant de rentrer dans la description et notamment de parler du graphène. En fait, pour nos auditeurs, redéfinir un peu parce que c'est très vaste et on vient de l'entendre hein, cette définition matériaux du futur ou matériaux de demain, ça englobe beaucoup de choses. On parle a priori de trois grandes familles de matériaux. Yves Bréchet, vous pouvez nous les résumer en quelques mots?
Alors, un matériau, c'est de la matière avec une fonction. C'est pas simplement de la matière. Alors après, si on se pose la question de cette fonction, elle se décline par des propriétés ou des combinaisons de propriétés. Et là, ce qui contrôle les propriétés, ça peut être simplement la manière dont les atomes sont liés et empilés. Ou ça peut être aussi la manière dont c'est un empilement plus ou moins régulier et contient des défauts. Donc je crois qu'il faut distinguer assez clairement ce qui vient de la régularité et ce qui vient des défauts. Une fois qu'on a fait ça, on arrive assez naturellement à classer les matériaux en trois grandes familles, essentiellement, suivant la nature de la liaison chimique qu'il y a entre eux, c'est les métaux, les céramiques et les polymères. Et puis il y a tout un ensemble de matériaux qui s'obtiennent par des mélanges, des hybrides, des alliages entre ces différentes familles. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des matériaux qui sont faits avec un matériau plus avec de la matière plus du vide. Et là, vous tombez sur les mousses. Vous avez toutes les classes de matériaux naturels.
Les biomatériaux. Qui ne se classent pas dans ces trois grandes catégories.
Alors, ils se classent, les briques élémentaires se classent dans ces catégories-là. Mais la grande caractéristique des biomatériaux, c'est que finalement, vous avez relativement peu de choix pour faire des matériaux naturels. Mais par contre, vous avez une infinie variété de choix sur la manière de les empiler. Et la richesse des matériaux naturels, c'est l'architecture avec laquelle on est capable de faire un mélange avec simplement de la lignite et de la cellulose. Et vous voyez la quantité de bois que vous pouvez créer. Et toute la richesse
la
de la nature,
et la cellulose, si on résume à grands traits, c'est du bois et du coton.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et si vous pensez à la variété du bois que vous pouvez faire avec deux briques, eh bien vous dites qu'il y a une autre révolution qui est en cours, qui est la révolution des matériaux architecturés. C'était des matériaux où la matière est là. Et l'architecture vient donner un espèce de levier, un levier de propriété. Donc vous avez des grandes familles qui sont les briques élémentaires, et une architecture qui vient se placer là-dessus, et qui amplifie les propriétés des matériaux.
Qu'est-ce qui fait, par exemple, on reparlera de la régularité, comme le graphène, ou au contraire des dysfonctionnements de ces briques plus tard, mais qu'est-ce qui fait qu'on découvre aujourd'hui les propriétés d'un nouveau matériau, par exemple? Comment est-ce que ça arrive? C'est par accident? C'est parce que, comme François Parmentier, décidément, j'ai du mal avec le nom de famille aujourd'hui. François Parmentier.
Je vous en prie, pas de souci. En fait, souvent, on part pas forcément d'un besoin, de découvrir un matériau qui aurait une certaine fonction. Ça peut être vraiment partir d'un problème extrêmement théorique qui ne concerne même pas un matériau qui existerait, juste en se disant bon voilà, si j'imagine ce cristal qui n'a absolument aucune chance d'exister avec telle propriété, j'ai tel effet qui est très étrange et qui après peut donner tout un tas de fonctions qui peuvent être aussi bien très intéressantes du côté fondamental que du côté appliqué. Et en fait, à partir de cette... c'est vraiment un modèle qui peut être complètement abstrait, mais qui contient des briques élémentaires à partir desquelles on peut se dire, OK, quel matériau ou quel assemblage de matériaux dans la vraie vie, entre guillemets, va contenir ces briques élémentaires? Et comment est-ce qu'on peut les assembler de manière assez intelligente pour qu'on se retrouve avec cette espèce de... qu'on se retrouve avec les mêmes propriétés que ce matériau complètement abstrait, complètement théorique? Et bon... Parfois ça marche, parfois on a d'autres surprises. Et c'est vraiment par petite avancée essayer de reproduire des modèles ou essayer de se dire, j'ai un matériau qui existe déjà ou qui n'existe pas, je vais essayer de le reproduire avec un autre matériau. Et souvent, en chemin, on peut avoir beaucoup de surprises et découvrir des choses très intéressantes.
Yves Bréchet, parfois ça arrive aussi de manière totalement fortuite ou totalement accidentelle, c'est ce que vous disiez François Parmentier. Parfois il suffit d'un bout de scotch pour parler du graphène.
Tout à fait. Il est rare qu'on découvre un matériau par hasard, mais il arrive assez fréquemment qu'on découvre par hasard pourquoi un matériau est intéressant. Je vais vous donner un exemple que je trouve extrêmement révélateur et qui montre aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir. Si vous prenez le polyméthylmétacrylate, qui est un polymère transparent avec lequel on fait des cristallins artificiels. Il a une propriété qui est intéressante d'un point de vue médical, qui est la capacité à ne pas irriter le corps humain. Il est biocompatible. La manière dont on a découvert que le polyméthylmétacrylate était biocompatible, c'est un médecin qui soignait des pilotes de la Royal Air Force qui avaient des éclats de polyméthacrylate qu'ils avaient ramassés dans les yeux quand ils étaient tombés en avion, à cause des hublots de l'avion qui avaient explosé. Il avait constaté que 25 ans après, ils avaient toujours ces éclats dans l'œil, et en constatant ça, il s'est dit, ce matériau est biocompatible, et en plus, il est transparent. C'est comme ça qu'on a inventé toute la classe des cristallins artificiels, qui fait que des gens qui étaient aveugles puissent vivre. Maintenant, il fallait quelqu'un qui ait l'esprit préparé.
Ou la cornée, en l'occurrence.
Tout à fait, mais la chance ne sourit qu'aux esprits préparés.
J'évoquais l'exemple du bout de scotch, puisque c'est grâce à priori un bout de scotch en 2004 qu'on a découvert le graphène à partir
de graphite.
De graphite, c'est-à-dire de crayon à papier.
Voilà, des mines de crayon à papier. Alors, il y a un peu, toujours un petit peu, c'est pas vraiment une controverse, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le concept de découverte. Puisque finalement, en tout cas, ce qui a été fait avec le bout de scotch, et ce qui est toujours une méthode qui est très amusante, c'est d'être capable d'isoler essentiellement un cristal de graphène et de le déposer à loisir sur un autre substrat, sur ce qu'on veut. Par exemple, en l'occurrence, ce qui se fait la plupart du temps, c'est du silicium qui est un substrat qui est neutre avec lequel après on peut faire ce qu'on veut. Et l'idée vraiment est que on prend un bout de crayon à papier, de graphite, on le met sur un bout de scotch et on referme le scotch sur lui-même plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on va fermer ou ouvrir le bout de scotch, on va arracher des plans de graphène du graphite. Et peut-être qu'avant, il aurait fallu définir un peu plus en détail ce que c'est que le graphène.
On va en reparler tout à l'heure.
Essentiellement, ça permet d'arracher des plans de graphène les uns après les autres du plan de graphite jusqu'à les isoler sur ce bout de scotch. Et ensuite, on vient les reporter sur un substrat qu'on veut, encore une fois, ce qui permet de les isoler. Et c'est vrai que c'était alors la façon dont les pères de cette méthode, donc André Geim et Constantin Novoselov, raconte ça, c'était vraiment une expérience du vendredi soir, où ils s'étaient dit, ils avaient des recherches très sérieuses, ils avaient beaucoup d'activités, puis ils s'étaient dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Vraiment, totalement par hasard, avant de rentrer chez soi, on va s'amuser, on va faire quelque chose comme ça.
Mettre du scotch sur un bout de crayon.
Voilà, et ça a tellement bien marché que maintenant c'est un pan de la recherche et de l'industrie qui est gigantesque.
Et au passage, ça a conduit à un prix Nobel de physique pour André Geim en 2010.
Et Kostia Novoselov, qui était son étudiante.
Pour dire un mot avant d'entendre le reportage d'Antoine Beauchamp, qui est avec nous en studio, pour dire un mot toujours de ces matériaux et des propriétés de ces matériaux, notre civilisation en fait n'a pas arrêté de se définir, en fonction de l'usage qu'elle faisait des matériaux. On est passé de l'âge de pierre à l'âge de cuivre, à l'âge de bronze, à l'âge de fer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on estime que le XXe siècle était l'âge quoi ? Du plastique, des polymères, Yves Bréchet ?
Je pense que le 19e a été l'âge des aciers, le 20e l'âge des polymères et le 21e siècle est l'âge du silicium. Alors maintenant, c'est à très grand trait. Ça ne veut pas dire que c'est le seul matériau, mais ça veut dire qu'il y a des matériaux qui rendent les civilisations possibles. La civilisation du numérique, c'est la capacité à faire du silicium très pur.
Silicium, qui est donc un composé qu'on utilise, qu'on retrouve beaucoup dans l'informatique.
On ne fait pas que ça. Mais par contre, une chose sur laquelle je tiens à insister, c'est qu'on a su faire du silicium très pur pour des raisons qui n'avaient évidemment rien à voir avec ça. On ne savait pas encore ce que c'était qu'un ordinateur. On ne savait pas les faire. On a fait du silicium très pur parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de purifier des cristaux pour étudier la migration des défauts dans ces cristaux-là. C'était une raison extrêmement fondamentale. Il se trouve qu'il était à Bell Labs à l'époque, et c'était à l'époque où Bell Labs avait l'habitude de laisser à un certain nombre de chercheurs une liberté de recherche, qui fait que ce monsieur a mis au point la technique de refusion de zone pour des raisons très fondamentales qui a créé toute l'industrie informatique. C'est un truc qui n'était pas planifié, qui n'aurait jamais pu l'être, et c'est parce qu'on faisait confiance à des gens intelligents qu'on a pu créer ça. Je pense que c'est une leçon.
Ce qu'on entend, c'est qu'on ne fait plus confiance aujourd'hui, qu'on n'a plus cette marge de manœuvre quand on est chercheur, et notamment quand on est chercheur dans ce domaine des nouveaux matériaux.
C'est tout à fait vrai. C'est aussi une question des moyens disponibles pour le faire.
Partagez ce point de vue, François Parmentier ?
C'est vrai qu'il y a maintenant un système de recherche qui est très axé sur de la recherche planifiée, avec des objectifs qui sont en principe assez clairs. et ce qui n'est pas forcément très compatible avec la façon dont la recherche fondamentale fonctionne, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions, on va commencer à faire des expériences, développer des modèles pour répondre à ces questions, et en chemin, on va peut-être découvrir quelque chose qui est complètement inattendu et qui peut être potentiellement beaucoup plus intéressant que la question qu'on se posait au départ.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut avoir du temps d'errance pour pouvoir tomber sur ces résultats inattendus, il faut du temps d'errance pour pouvoir mettre du scotch sur un bout de crayon papier,
voilà,
et que ce temps d'errance, vous ne l'avez plus aujourd'hui ?
On l'a, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus pressé de vraiment avoir des choses très planifiées et de dire, OK, à l'échelle de 2-3 ans, je vais faire tel projet qui aura tel résultat, ce qui peut être intéressant. Enfin, bâtir un projet, c'est toujours très intéressant, mais c'est vrai qu'on commence à moins en moins s'autoriser le fait de vraiment faire des recherches pour le plaisir, pour se poser des questions et de partir dans des directions qui n'ont a priori pas d'intérêt et qui se révèlent être très très intéressantes quelques années plus tard.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h16 sur France Culture. Avant de dresser la liste des usages et des différentes applications envisageables de ces nouveaux matériaux dont nous sommes en train de parler, et puis on va aussi longuement parler du graphène, parce que Yves Bréchet disait à l'instant le 21e siècle sera l'âge du silicium, mais peut-être que le 21e siècle sera l'âge du graphène. Qui sait, Yves Bréchet?
Je crois que c'est toujours schématique. Dans une civilisation industrielle telle qu'on la connaît, plus elles sont industrielles, moins on peut dire c'est tel matériau qui domine. C'est ce qui rend possible telle ou telle évolution. Je suis incapable de vous dire si ça sera l'âge du graphène ou pas. Et je pense qu'en fait, la question ne se pose même pas. Par contre, la question qui se pose, c'est que le 21e siècle, par les demandes croissantes de calcul numérique, vont être obligés d'aller voir de plus en plus près la nature quantique de la matière, de façon à pouvoir bien la comprendre, et que le graphène, pour moi, est une manière de bien comprendre cette nature de la matière. Alors, je ne sais pas si le graphène sera utilisé, je ne sais pas, Madame Soleil, sera utilisé massivement dans l'industrie, je veux dire, mais ce que je sais, c'est que la capacité de recherche qu'on développe là-dessus, aussi bien expérimentale que théorique, est quelque chose qui vous donne les outils intellectuels pour préparer l'avenir. Je crois que ce qu'il y a d'essentiel, c'est d'avoir les outils intellectuels pour préparer l'avenir, plutôt que d'essayer de le deviner en suivant tel ou tel mode ou tel ou tel affichage. C'est vraiment en termes d'outils qu'il faut réfléchir.
Alors on verra si le graphène peut devenir cet outil et cet outil intellectuel qui va concentrer les travaux et les applications industrielles de demain. Mais avant ça, on va passer au stade concret. On va sortir prendre l'air un peu. Hein, ça tombe bien. En tout cas, à Paris, il fait un temps magnifique. Et d'ailleurs, notre camarade Antoine Beauchamp a une mine superbe. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
Puisque pour votre reportage du jour, vous êtes allé dehors au contact de la nature urbaine en ville pour nous faire découvrir le bois qui valait 3 milliards. Le bois bionique.
Exactement, j'ai rencontré Timothée Boitouzet qui a créé en novembre dernier Woodoo, une start-up qui, par un procédé de reconstruction moléculaire, fabrique un bois augmenté. En fait, en extrayant la lignine du bois et en injectant un monomère bio qui constitue le secret de fabrication de cette start-up, Timothée Boitouzet rend son bois imputrescible, étanche, plus rigide, plus résistant au feu et, cerise esthétique sur le gâteau, transparent ou translucide selon les essences.
Et donc à quoi doit servir, Antoine, ce bois bionique?
La première application du bois de Woodoo, ce sera le design et le mobilier. Dans les 2 ans, Timothée Boitouzet, qui est architecte de formation, compte mettre son bois bionique à contribution pour des façades, des toitures ou des planchers. Mais l'objectif final, c'est d'ici 5 ans, de pouvoir rendre possible la construction de tours en bois. C'est donc au Jardin du Luxembourg que j'ai rencontré Timothée Boitouzet. On l'écoute.
Woodoo, c'est une start-up qui est spécialisée dans la fabrication et la conception de bois bionique, et donc de bois translucide qui est 3 fois plus rigide, beaucoup plus durable sur le temps, imputrescible, et voilà. L'innovation, elle commence par extraire la lignine du bois, donc on commence à travailler à partir du bois massif, donc avec tout son réseau tridimensionnel de cellules, donc on extrait la lignine du bois.
Qu'est-ce que c'est la lignine ?
Alors la lignine, c'est une macromolécule qui va donner au bois sa rigidité. Et cette lignine-là, ce qui est fascinant, c'est que pendant longtemps, elle a été un petit peu dénigrée dans l'industrie. On l'utilisait soit pour faire de la pâte à papier, soit comme combustible bon marché. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la lignine, c'est une molécule qui est fantastique parce qu'elle est très riche. On peut la segmenter en différentes sections pour la transformer en différentes choses. Donc on peut la transformer en énergie verte par méthanisation, on peut la transformer en fibre de carbone biosourcée, on peut la transformer en médicaments, on peut la transformer en énormément de choses. Donc le simple fait de l'extraire et de la transformer en quelque chose à haute valeur ajoutée. D'une part, donc, on s'intègre vraiment dans une démarche d'économie circulaire et on vient créer de la valeur puisque ça vient en plus réduire nos coûts de production. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de retirer la lignine. Et après, on vient imprégner donc cette matrice par un monomère biosourcé. Donc c'est une résine végétale qui vient durcir à l'intérieur des cellules. C'est un bois augmenté, il est beaucoup plus dense, il y a plus d'air dedans et donc il a des caractéristiques absolument fantastiques.
On est au jardin du Luxembourg aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau et on est entouré de plein d'espèces d'arbres différentes, il y a sans doute des marronniers, des tilleuls, etc. Est-ce que vous pourriez faire de ces arbres qui nous entourent du bois augmenté ?
Absolument, on n'est pas tributaire d'une essence d'arbre particulière. Toutes les essences marchent à part quelques essences exotiques d'Afrique. Tous les arbres que vous voyez autour de nous, là, on peut les transformer en bois translucide.
Est-ce qu'on pourrait en oui. voir un peu ? Alors voilà, c'est assez drôle parce que vous sortez du bois de votre poche.
Voilà, alors là, on va le regarder par ici si vous voulez.
Avec le soleil.
Avec voilà. Le soleil. Donc vous avez le avant-après, ça c'est du hêtre rose. L'échantillon à gauche est opaque, donc c'est l'échantillon natif. Et à droite, c'est l'échantillon qui a été transformé donc en bois augmenté. Et vous voyez que donc on reconnaît encore toutes ces cernes. C'est des échantillons de laboratoire. Il fait 7 mm ici, et donc la lumière passe complètement au travers. Donc il est beaucoup plus rigide et il a toutes ces caractéristiques que je vous ai mentionnées.
Est-ce que vous avez un bois de prédilection ?
Alors moi j'aime beaucoup le chêne et j'aime beaucoup le frêne. Après c'est des essences nobles, donc nous on tient aussi à valoriser des essences d'arbres de faible constitution qu'on n'utilise pas ni dans la construction, ni même pas en bois de chauffage finalement. Ces bois-là c'est du pin, c'est l'épicéa, c'est du tremble, des essences comme ça, du peuplier aussi, qui sont un petit peu délaissées. Parce que c'est des essences qui sont trop fragiles, elles sont trop poreuses. Il y a beaucoup d'air, elles sont très fragiles chimiquement.
Quelles applications concrètes on pourrait avoir à terme pour ce bois ? Quels sont vos premiers objectifs et quels sont les objectifs finaux pour se servir de ce bois augmenté ?
Nous, on compte se focaliser donc dans un premier temps sur l'industrie du design, du mobilier et l'industrie du luxe aussi qui s'intéresse à notre matériau. Donc ça, c'est des premiers marchés qui sont assez accessibles pour nous à ce niveau-là. Mais donc je suis architecte, je le destine à terme au secteur du bâtiment. Donc dans un horizon de 2 ans, après avoir passé tous les tests nécessaires pour l'intégrer dans la construction, donc on en fera des toitures, des façades et des éléments de plancher. Et comme il est beaucoup plus rigide, eh ben écoutez, ça sera l'opportunité de créer des tours en bois dans le futur. Ce qui est impossible aujourd'hui parce que la construction en bois existante aujourd'hui, la plus haute au monde, elle fait 12 étages. Et donc bah, avec celui-ci qui est 3 fois plus rigide, on pourra construire 3 fois plus haut, donc 30 ou 40 étages.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp, donc du bois bionique, c'est un biomatériau. Vous y croyez, vous Yves Bréchet, à des tours de 30-40 étages en bois bientôt ?
Pourquoi pas ? Je veux voir quelle est la résistance à la propagation de fissures, je veux voir quel est le vieillissement de ce matériau en fonction de la lumière qu'on met autour. Je veux dire, la propriété dont vous me parlez est intéressante. Pour en faire un objet qui devient un objet industriel, ça veut dire que ce n'est plus une propriété à laquelle on doit répondre, mais un cahier des charges. Donc je peux vous répondre, la chose me semble suffisamment intéressante pour que j'ai envie de la regarder de plus près. Je peux pas vous signer, j'achète pas un âne dans un sac.
Par rapport à ce qu'on se disait en première partie tout à l'heure, on change d'échelle aussi, c'est-à-dire que là on n'est plus au niveau moléculaire, on travaille le matériau en tant que tel et ses propriétés chimiques, physiques et mécaniques.
Tout à fait, on travaille le matériau et on le travaille véritablement au niveau de l'architecture. Et je pense que ça c'est une chose qui est très intéressante parce que quand vous regardez les matériaux naturels, ils ont des choses à nous apprendre qui sont assez profondes. Dans les matériaux naturels, vous avez des particules qui sont fragiles et vous avez de la matière qui est non fragile, la matière organique. Toute l'astuce de la nature est que les particules fragiles sont toutes petites et du coup, en étant toutes petites, elles cessent d'être fragiles. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que quand vous avez une architecture dans la nature, elle est à toutes les échelles. Elle va de l'échelle de l'angström jusqu'à l'échelle du millimètre. Et ces deux règles-là vous permettent d'avoir des matériaux qui ont des propriétés extraordinaires, ce qui fait quand même le meilleur matériau pour faire un arbre, ça reste le bois.
jusqu'à preuve du contraire. Peut-être faire des arbres bioniques un jour. Mais je vais me tourner vers vous, François Parmentier, puisqu'on passe d'un biomatériau, donc de l'échelle du matériau, donc de ce bois qu'on transforme, au niveau moléculaire, à un autre matériau. On en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, le graphène. Est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure que le graphène est du biomatériau aussi, puisqu'il est extrait de la graphite, qui est un matériau naturel.
Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un biomatériau, enfin en tout cas par rapport à ce qui est fait dans cette start-up, donc c'est Woody.
Woodoo.
Parce que cette start-up part d'un bois vraiment naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus naturel que le bois, à part d'autres plantes.
On pourrait passer des heures là-dessus. Le caillou est-il plus naturel que le bois? Non.
Voilà. Disons qu'en tout cas, pour le commun des mortels, quand on pense à du bois, on pense à la nature. Quand on pense à un bout de graphite, on pense pas forcément à la nature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire naturel là-dedans? Je ne sais pas. Surtout que finalement, les façons qu'on a d'extraire. De prendre du graphite et d'en extraire du graphène sont pas franchement naturels.
On va rappeler que la graphite, c'est la mine de crayon, voilà, donc c'est du carbone.
C'est un cristal de carbone qui, donc, c'est une des formes les plus, peut-être pas les plus, enfin, loin d'être les plus communes du carbone. En tout cas, c'est beaucoup plus commun en tant que cristal bien ordonné de carbone que le diamant. Mmh. Ce qui fait que c'est
plus accessible.
C'est plus accessible.
Vos recherches coûtent moins cher.
C'est moins joli que le diamant.
Quoique, quand on regarde au niveau moléculaire, c'est très joli. Le graphène, pour nos éditeurs, vous pouvez aller jeter un œil sur les réseaux sociaux ou sur notre site, sur franceculture.fr. Le graphène, c'est une fine ligne qui ressemble à des nids d'abeilles. C'est juste une couche comme ça d'atomes de carbone reliés les uns aux autres.
Exactement. C'est vraiment un cristal qui est bidimensionnel. C'est-à-dire qu'il a, c'est vraiment comme une feuille, mais qui fait l'épaisseur d'un atome. Mmh. Et donc, vu de haut, enfin, vu en face de la feuille, les atomes sont arrangés en nid d'abeille, ouais, en hexagone.
Et alors, dites-nous, donc le graphène, finalement, existait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, il a été découvert, on a compris, on l'a trouvé, je ne sais pas, la terminologie, encore une fois, c'est à vous de la définir, il y a très peu de temps, en 2004. Pourquoi c'est un matériau aussi incroyable que ça, le graphène?
Alors, déjà, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que finalement, je vais pas mettre les dates parce que je vais dire n'importe quoi, mais les premiers calculs théoriques sur vraiment quelles seraient les propriétés du graphène datent d'il y a plusieurs décennies. C'était vraiment, on s'était dit, bon, on sait que le graphite est fait de matériaux, enfin voilà, de plans bidimensionnels de cristaux en nid d'abeille. Si, donc là c'est vraiment un théoricien qui s'est dit, si je prends un cristal bidimensionnel de nid d'abeille, je le prends tout seul, quelles vont être ses propriétés? Et là, donc, il a fait les calculs, il s'est rendu compte que ça a plein de propriétés électriques, mais aussi vraiment purement mécaniques qui sont extrêmement intéressantes. C'est un cristal qui peut. Donc, c'est un cristal qui est conducteur, comme un métal, sauf que c'est entre guillemets un métal qui fait l'épaisseur d'un atome. Et donc, c'est vraiment relativement à son épaisseur, le meilleur conducteur qu'on puisse imaginer. Puisque si on veut prendre un fil électrique, par exemple, si on prend du cuivre et qu'on réduit ça à l'épaisseur d'un atome, déjà, ça va être compliqué parce que c'est pas très stable. Et d'autre part, ça va pas du tout être un aussi bon conducteur que le graphène. Le graphène, vraiment, encore une fois, du fait de son réseau de carbone en nid d'abeille, a des propriétés mécaniques qui sont très, très impressionnantes.
Il est hyper flexible.
Il est très flexible, il est très solide. Alors, il n'est pas solide par rapport à tous les types de cassures. C'est-à-dire qu'il peut se déchirer assez facilement si on en prend comme une feuille. Par contre, pour le trouer, c'est un peu, encore une fois, à l'image de la feuille. Pour trouer une feuille avec son doigt, c'est compliqué. Par contre, pour la déchirer, c'est assez facile. Et alors, je crois que c'était justement André Geim, à la remise de son prix Nobel, qui avait fait cette analogie, qui disait que, en fait, en imaginant une feuille d'un mètre carré de graphène, on pourrait en faire un hamac pour un chat de 4 kilos, et cette feuille pèserait moins qu'une seule des moustaches du chat, c'est-à-dire quelque chose comme moins d'un milligramme.
Ce qui est donc assez résistant.
Voilà, c'est un matériau qui c'est un peu l'analogie de la toile d'araignée, c'est un matériau qui est extrêmement léger, extrêmement résistant.
Mais alors justement, puisque vous évoquez la toile d'araignée, puisqu'il faut rappeler que la soie d'araignée a des propriétés pareilles mécaniques et de résistance très élevées. Je parle sous votre contrôle, Yves Bréchet. J'ai lu qu'en aspergeant des araignées avec du graphène et du carbone, leur toile, du coup, devenait l'un des matériaux les plus solides et les plus prometteurs de l'avenir, plus solide que du Kevlar. Vous me confirmez ça, Yves Bréchet?
Je ne peux pas vous confirmer ça, mais je peux vous amener à vous poser une question. Le hamac du chat est une très belle image. La deuxième question que se posera un ingénieur devant ça, c'est de se dire, et qu'est-ce qui se passe si le chat donne un coup de griffe? Parce que c'est pas la même chose de parler de la résistance d'un matériau et de parler de sa résistance à la propagation d'un défaut existant. Et pour faire un hamac, et faire un hamac où le chat se sentira bien, il faut que s'il donne un coup de griffe, le hamac ne se déchire pas. Et je crois que ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'il faut toujours se reposer la question de l'ensemble des sollicitations que va vivre une matière qu'on étudie pour en faire un matériau qu'on va utiliser.
Et alors, en l'occurrence, est-ce que François Parmentier, est-ce que le hamac de graphène résiste à un coup de griffe?
Ça ne marche pas si bien que ça, en fait. Et effectivement, oui, les propriétés sur le papier de déformation sont très très bonnes. Dans la pratique, ça reste quand même un cristal qui est assez fragile. Et vraiment parce que le moindre défaut, la propagation, on part du moindre défaut possible et ça se déploie. Enfin, vraiment, ça se fait très très vite.
Ça se déchire facilement.
Alors,
on va parler un peu concrètement puisque le graphène donc a conduit à un prix Nobel. Il y a une sorte de passion internationale pour le graphène, hein, puisque si on met à 2004, si on pose un jalon à 2004 pour sa découverte, on va dire découverte,
ouais.
On dit découverte. En 2004, il y a 50 brevets qui sont posés sur le graphène. En 2014, il y en a 9000 par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le graphène quand même concentre beaucoup, beaucoup de recherches fondamentales, industrielles. C'est devenu un peu la marotte de la recherche en nouveaux matériaux, François Parmentier.
C'est ce qui est à la mode. Effectivement, ça concentre beaucoup de recherches, ça concentre aussi beaucoup de financement. Mm-hmm. Et alors, les deux effectivement sont liés. C'est vrai que tout le monde s'est mis à faire du graphène un peu à tort et à travers. Il y a vraiment des effets qui sont assez amusants en recherche scientifique. Il y a des effets de mode. On pourrait croire que non, chacun fait ce qui l'intéresse. Mais si tout le monde est intéressé par la même chose, au final, il y a vraiment un effet de mode et tout le monde ne fait plus que parler de graphène.
Ça fait sourire Bréchet.
Mais ça me fait sourire, vous avez tout à fait raison. Ça fait sourire parce que c'est l'exact équivalent dans le monde scientifique des bulles spéculatives. Vous avez un endroit où vous allez mettre dans une population famélique qui a besoin de moyens pour pouvoir faire de la recherche, un endroit où vous allez mettre beaucoup d'argent. Donc vous allez voir arriver des tas de gens qui se disent c'est là qu'il faut que j'aille parce que c'est là que j'ai de l'argent et pour faire aussi d'autres choses qui sont peut-être à plus longue portée, qui sont moins visibles, bien je suis obligé de les décliner sur ces sujets-là. Et donc, du coup, vous allez voir arriver énormément d'équipes là-dessus. Et les gens qui ont mis beaucoup d'argent là-dessus vont vous dire, vous voyez bien que j'avais raison, regardez tous les gens qui viennent là. Et au bout d'un moment, ça fait une bulle spéculative. Et exactement comme les bulles spéculatives, ça éclate, pouf, jusqu'à la prochaine. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas une manière saine de gérer la science. Je pense qu'il faut qu'il y ait une incitation à un certain nombre de sujets qui sont porteurs, mais je pense qu'il faut jamais perdre de vue qu'on fera des choses intelligentes sur les sujets si on a un fond de base qui est un fond de recherche et de connaissances qui n'est pas soumise précisément à ces effets de mode.
Puisque vous parlez d'effets de mode, l'une des raisons pour lesquelles vous approuvez ce que vient de dire le chef François Parmentier.
C'est pas parce que je travaille sur le graphène que je suis pas conscient
que vous êtes dans une bulle spéculative de recherche.
Mais je fais pas le reproche aux gens du graphène de faire ça. Je pense que fondamentalement les chercheurs sont plus ou moins contraints avoir cette attitude-là.
En fait.
Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience du fait que les contraindre à ça est quelque chose qui, dans le long terme, n'est pas productif.
L'une des explications possibles à cet effet d'entraînement ou à cet effet de mode ou à cet effet de bulle, appelez-la comme vous voulez, c'est que les applications possibles du graphène concernent un secteur qui est particulièrement porteur en ce moment, c'est celui de la téléphonie mobile. Yves Bréchet ?
Oui, tout à fait. Mais il y a deux choses. Il y a des applications possibles. Et il y a des applications revendiquées. Mmh. Et que justement, quand vous arrivez à une situation de bulle spéculative, ça veut dire qu'on va mettre sur le même plan des choses qui sont pensées, où on a véritablement des chances d'aboutir, et des choses qui sont juste affichées parce que ça permet de vendre le truc. Mmh. Et je pense qu'on a besoin aussi, quand vous promettez aux gens la Lune, et ça n'a rien d'étonnant qu'ils soient déçus quand ils trouvent un camembert sur la table. Donc ça veut dire fondamentalement, il faut qu'on réapprenne ça aussi, de promettre, de dire des choses dont on sait qu'il est raisonnable de pouvoir les attendre.
Alors dans les applications, vous allez me dire l'un et l'autre, ce qui est raisonnable de pouvoir attendre, puisque pour vous dire à quel point effectivement le graphène attire toutes les attentions, au congrès mondial de la téléphonie mobile qui s'est tenu à Barcelone, il y a eu un pavillon entièrement consacré aux centres de recherche et à des start-up qui travaillent sur le graphène, donc c'est dire qu'on est effectivement dans un secteur qu'on appelle porteur en matière industrielle. On parle d'un téléphone mobile souple, on parle de batteries beaucoup plus résistantes, on parle de quoi encore, François Parmentier ?
Il y a aussi, alors comme le graphène est transparent, et conducteur, il y a encore beaucoup de promesses qui sont en tout cas faites. Je ne sais pas si elles sont tenues à ce jour sur avoir des écrans tactiles donc transparents. Il y a, comme vous le disiez, alors au-delà du téléphone, le fait encore ce qui est très promis, je ne sais pas si c'est vraiment tenu, mais d'avoir une électronique qui est souple et où vraiment on sortirait un peu du paradigme de la carte électronique en plastique solide. Mmh. Bon. Après, effectivement, de mon côté, qui m'intéresse vraiment aux propriétés fondamentales du graphène, je trouve ça assez amusant. Parfois je ris jaune quand je vois vraiment tout l'engouement industriel qui se fait là-dessus, sachant que il y a une fois sur deux peut-être pas une fois sur deux, je vais pas dire des statistiques parce que je les connais pas, mais quand les gens parlent de graphène à l'échelle industrielle, c'est plutôt, je vais passer dans l'autre sens. Quand on parle de graphène en physique fondamentale, on passe vraiment à cette monocouche atomique d'atomes de carbone. Je pense que quand on vend du graphène dans des promesses industrielles, on pense à plusieurs couches quasiment du graphite. Ça reste suffisamment conducteur, ça est un peu solide, un peu souple. C'est un espèce de... finalement, graphène est un peu un mot magique pour vendre une électronique à base de carbone, qui n'est pas forcément sans intérêt, loin de là. Mais c'est plus une... Il y a vraiment le... c'est un mot magique, quoi. C'est vraiment...
Dans ces applications, Yves Bréchet, que je citais, ou dont parlait François Parmentier, le téléphone souple, l'écran souple, la batterie magique qui se recharge en 5 minutes sans contact, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est des applications industrielles réelles?
Je pense que c'est des possibilités sérieuses. Quand vous passez du physicien à l'ingénieur, et j'ai la chance d'avoir un peu les pieds des deux côtés, une question que se pose toujours l'ingénieur, qui est la question du temps, qui est la question de la durabilité de ce qu'il a obtenu. Dans un laboratoire, on va créer un objet, l'objet marche, on est content. Quand un ingénieur fabrique quelque chose, je connais qu'un cas de figure où ça ne sert qu'une fois, vraiment qu'une fois et dans un temps très court, c'est le revêtement de la navette spatiale. Et là, vaut mieux que ça tienne bien, mais juste le temps nécessaire. La plupart des applications sont des applications qui sont faites pour durer un certain temps. Donc ça veut dire que toujours, quand on pense à utiliser un matériau aussi révolutionnaire soit-il, il y a une vieille question qui revient toujours sur la table, et je pense qu'il est préférable qu'elle y revienne le plus tôt possible, qui est la question de la durabilité. Parce que ça vous donne vraiment la clé de l'application. C'est quand vous avez quelque chose qui n'est pas du tout durable, ça veut dire que vous allez chercher des applications qui sont essentiellement du jetable. Quand vous cherchez des applications pour un objet que vous devez conserver, notamment des objets de haute technologie, la durabilité est absolument essentielle. Et je crois que cette question, elle mérite d'être posée quasiment en même temps qu'on se pose la question des propriétés qui peut rendre le matériau intéressant.
Et pour emboîter votre pas sur cette question de la durabilité, ou en tout cas de la projection, on a parlé du nombre de brevets, du nombre de publications qui est quasiment exponentiel depuis 2004. Par ailleurs, ça intéresse aussi les pouvoirs publics, puisque la Commission européenne a retenu en 2013 un projet de recherche sur le graphène qui est doté d'un budget d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Ça veut dire qu'on est face à un enjeu aussi de politique de recherche publique d'envergure, François Parmentier ?
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle dans la communauté le flagship, le vaisseau amiral, qui est un projet très important. Alors je ne sais même plus combien de labos ça regroupe. Il y a aussi des acteurs industriels qui sont regroupés là-dedans. Et il y a un peu un effet où ça a bénéficié à beaucoup de monde. Et ça a aussi été un espèce de grand fourre-tout. On va faire le graphène, c'est très actif, on va mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui, finalement, n'est pas non plus si grave que ça, parce que ça correspond pas si mal que ça au principe d'une recherche où on dit, on va vous donner les moyens, amusez-vous, faites de la science, augmentez les connaissances.
Et il y a peut-être droit à un peu d'errance, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Voilà, ce qui donne un peu le droit à un petit peu d'errance. Mais effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a plusieurs modes, surtout dans le domaine que je connais, qui est en physique fondamentale, qui ont donné lieu à des très très forts appels à projets de différentes. Donc il y a le graphène, il y a aussi d'autres systèmes que je ne vais pas préciser, mais où d'un seul coup, ça fait un peu une espèce de bulle. Il y a beaucoup d'argent qui tombe dedans. Ça permet quand même une belle expansion des connaissances, un peu d'explorer ce qui va tout autour, mais c'est assez représentatif du système de fonctionnement de la recherche actuelle.
Ça vous inspire quoi, Yves Bréchet, cette enveloppe de la part de la Commission européenne sur 10 ans?
Vous pardonnerez un Européen convaincu et un scientifique passionné, en ce qui concerne la politique européenne de la science, de réserver mes avis sur ce qui concerne les ERC, que je trouve être une initiative remarquable et qui est exactement ce que l'Europe devrait faire.
Les ERC, précisés pour
les European Research Council, c'est les financements de projets assez variés, conséquents pour des chercheurs qui sont de grande qualité à différentes étapes de leur carrière, soit jeunes, soit seniors, soit plus seniors. Pour moi, c'est là que se situe la richesse du financement de la communauté européenne.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Living in a Plastic Age des Buggles, c'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h42 déjà, nous sommes toujours avec Yves Bréchet, physicien et chimiste, enseignant à l'Institut Polytechnique de Grenoble, et François Parmentier, chercheur au CNRS, au laboratoire spécialiste du graphène, comme on l'a entendu dans la première partie. On a beaucoup parlé justement du graphène tout à l'heure. Je voudrais qu'on donne un aperçu un peu maintenant des autres champs de recherche, des autres nouveaux matériaux et de leurs applications possibles. On a beaucoup, par exemple, parlé très récemment, là, au mois d'août, à la fin du mois d'août dernier, de l'impression 4D. Alors, trois dimensions, j'arrive à compter, ça va. 4D, c'est quoi l'impression en 4D, Yves Bréchet ?
Joker.
L'impression en 4D, c'est-à-dire l'impression à mémoire de forme.
Ah bon, vous voyez, vous me l'apprenez.
Ah bon,
j'ai un peu travaillé sur l'impression 3D, mais l'impression 4D, vous me l'apprenez.
C'est l'impression à mémoire de forme, c'est-à-dire que c'est voilà, une bio-impression dont on peut retrouver la forme à un certain niveau de température et dont les applications thérapeutiques sont notamment potentiellement la libération de médicaments ciblés. Lors d'une infection, par exemple. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a de la fièvre et la mémoire de forme se remet en place. Et du coup, ça peut permettre de libérer des médicaments in situ.
Et c'est biocompatible, ça ?
Ben, a priori, c'est en tout cas ce que laissent entendre les premières recherches.
Écoutez, j'essaye de ne pas dire de bêtises en privé, je vais essayer de ne pas en dire en public.
Dites-moi, d'autres types, on va essayer de rentrer justement encore, j'aimerais bien rentrer avec vous un peu dans ces applications concrètes. Est-ce qu'il y a d'autres types, vous, de biomatériaux ou de matériaux, de nouveaux matériaux, qui vous semblent pouvoir déboucher rapidement sur des applications qui pourraient changer, qui pourraient apporter, qui pourraient être mises à un niveau industriel assez rapidement, Yves Bréchet ?
Encore une fois, je pense qu'il faut penser les nouveaux matériaux dans un spectre très large. Vous avez des améliorations incrémentales qui conduisent à des vraies révolutions. Vous voyez, j'ai le bras cassé. Mmh. Je veux dire, je me serais cassé le bras il y a 20 ans de la manière dont je me suis cassé, le coude, j'aurais un bras d'infirme. Ce qui permet maintenant de le faire, c'est de mettre certains types d'alliages qui ont été optimisés, qui ont été améliorés et qui font que je vais avoir un bras avec 90% de ses possibilités. Si c'était les jambes, ça serait un autre type d'alliage. Et si je me cassais le col du fémur à 80 ans, il y a 20 ans, j'étais grabataire puis mort. Donc vous voyez, c'est une situation, vous avez une évolution incrémentale des matériaux qui révolutionne la manière dont les gens vont vivre leur vie. Et donc il y a tout cet aspect-là qui est un peu la partie immergée de l'iceberg à laquelle on ne pense jamais. Puis vous avez parfois des innovations qui sont complètement révolutionnaires, des matériaux complètement nouveaux. Généralement leur niche d'application est relativement réduite, sauf que de temps en temps vous avez le silicium, vous avez la terre cuite, et là vous créez une nouvelle civilisation. Mais je pense qu'il faut avoir
peut-être le graphène.
Ou peut-être le graphène, mais je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit le continuum en question. Il y a peu de chances où on peut sûrement pas prévoir l'apparition d'un matériau qui va complètement révolutionner une civilisation. Vous avez une recherche incrémentale qui vous permet d'optimiser les matériaux. Vous savez qu'il y a 80% des aciers que vous avez dans une voiture qui n'existaient pas il y a 15 ans. Quand même. Et puis vous avez entre tout ça vous allez avoir l'arsenur de gallium que vous pouvez imaginer pour de l'électronique de puissance. Ça va être à cet endroit-là que ça va être particulièrement pertinent et ça va révolutionner ce secteur-là. Donc,
c'est-à-dire qu'on est sur des secteurs, sur des matériaux de niche, donc très segmentés.
De niche, mais qui peuvent être quand même extrêmement importantes. Je considère que mon coude n'est pas une niche.
S'il
est segmenté.
Mais justement, on peut dire en règle générale, arrêtez-moi si je me trompe, je sais que vous n'y manquerez pas, que l'ambition générale de ces nouveaux matériaux, c'est d'avoir une influence, notamment sur la consommation d'énergie, beaucoup, c'est-à-dire d'essayer de la réduire, d'alléger la facture énergétique. Je pense par exemple, pour prendre un exemple concret, là, dans l'immense littérature qu'il y a autour de ces nouveaux matériaux, par exemple, à des textiles qui permettent de refroidir le corps, c'est-à-dire de laisser passer le rayonnement infrarouge, et donc qui permettrait d'éviter de diminuer la consommation en climatisation, et donc de diminuer, in fine, la consommation d'énergie carbonée. Donc tout ça a l'air de préparer un monde merveilleux de demain où on consomme moins d'énergie, où tout va mieux, mais tout de même, on parle quand même aussi de nanomatériaux. On voit aujourd'hui que la prolifération des nanomatériaux dans des produits de consommation courante pose des questions qu'on n'a peut-être pas totalement pris en compte. Alors appelez ça un principe de précaution, en tout cas les répercussions possibles de la diffusion de ces nanomatériaux dans l'environnement. Est-ce que l'industrie ne pousse pas la science à aller un peu trop vite sur ces nouveaux matériaux tant qu'on ne maîtrise pas encore totalement l'ampleur, le champ d'application et des répercussions que ça pourrait avoir sur le corps humain ou sur l'environnement? Yves Bréchet, c'est une très longue question, mais vous pouvez faire une très longue réponse.
Je vais vous commencer par vous raconter une histoire drôle. Est arrivé à l'Académie des sciences, il y a quelques années, venant d'une ministre dont je tairai le nom par charité, une définition des nanomatériaux qui demandait à être validée par l'Académie des sciences. C'était déjà un miracle qu'on demande quelque chose à l'Académie des sciences. Mais c'était arrivé
sur le bureau. Qui fête ses 350 ans cette année.
Qui fête ses 350 ans, tout à fait. Et quand on regardait la définition des nanomatériaux, c'était une espèce de sabir absolument incompréhensible, mais il y a un matériau qui tombait parfaitement là-dedans, c'était le pastis. Alors c'est tout à fait exact que le pastis est dangereux si on en boit beaucoup, et que ça peut même conduire à la mort. Mais c'était quand même une vaste blague. Alors, je veux dire, il y a un moment, il va falloir arrêter de faire peur, de la peur qui fait peur aux peureux. Si vous appliquez le principe de précaution tout à fait strictement, vous n'avez pas le droit de fabriquer des vélos. Parce que vous savez que depuis qu'on a fabriqué des vélos, on ne sait toujours pas comment le vélo fonctionne. C'est une extrêmement subtile rétroaction sur le vélo du conducteur. C'est pas l'effet gyroscopique, c'est pas le frottement, c'est pas l'inertie. On ne sait pas comment fonctionne un vélo. Donc si vous appliquez strictement, vous ne devez pas faire quelque chose dont vous ne savez pas tout de suite la raison profonde pour laquelle ça marche, et bien vous ne fabriquez pas de vélo. Alors, je suis partisan d'être prudent, je ne suis pas partisan d'être précautionneux. Et il y a une nuance précise là-dessus.
Oui, on entend bien François Parmentier sur ces questions. Enfin, on peut se poser la question de la même façon qu'on s'est posé la question de la nocivité des ondes téléphoniques, de la même façon qu'on s'est posé il y a plus longtemps la question de la nocivité des ondes radio. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les nanomatériaux, on ne va pas un peu trop vite en besogne sans voir, sur une échelle de temps un peu plus large, les répercussions que ça pourrait avoir et sur l'environnement et sur la santé?
Alors, en termes de santé, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Le terme nano peut faire peur. Le terme nano excite beaucoup de gens et il fait peur à beaucoup de gens.
Je peux vous donner une anecdote, parce qu'en préparant l'émission dans l'équipe, tout à l'heure, j'ai des gens qui sont peut-être beaucoup plus inquiets que vous, je prêchais, qui disaient « Mais tu te rends compte, les nanomatériaux, c'est à l'échelle de l'ADN, ça peut recombiner les gènes. » Alors
Oui, puis ça peut, de même manière qu'on peut faire un hamac sur le papier d'un mètre carré pour un chat en graphène, sauf que... reste à voir si vraiment ça peut. Et donc là, il y a des questions. On peut se poser la question, est-ce que tel nanomatériau peut recombiner l'ADN? Si on se pose la question, il faut essayer d'y répondre.
On est en tout cas à ce niveau-là. Cette échelle-là.
Sauf qu'il faut, se poser les questions de manière rationnelle. Et comment dire, c'est vraiment... Enfin, ce serait un peu l'équivalent. Je ne sais pas si tel matériau va recombiner l'ADN ou pas, je n'étant pas spécialiste en biologie. Mais c'est vrai qu'on peut aboutir à des questions, à se dire « Ah, mais attention, si je conduis une voiture et que d'un seul coup la voiture va dans le soleil, c'est très dangereux, interdisons les voitures. » Je schématise, c'est extrêmement grossier la façon que j'ai de le dire, mais c'est qu'on se pose des questions qui sont frappées au coin du bon sens. Mais qui ont l'air d'être frappés au coin du bon sens. Mais le coup de la voiture et du soleil, c'est pas tout ça.
Je vais vous reposer la question alors d'une autre façon. Quand on est comme vous, par exemple, dans ce secteur qui est donc une bulle spéculative, comme le définissait Yves Bréchet tout à l'heure, donc un secteur ultra concurrentiel, on parle de 9000 brevets pour le graphène. Est-ce que il n'y a pas une pression industrielle derrière vous qui pousse à aller un peu plus vite que la musique?
De mon côté, absolument pas.
Pas de votre côté, ouais, mais en règle générale.
Comment dire, au niveau, enfin, c'est vrai qu'on se retrouve de plus en plus avec des inclusions. Alors, il y a quelques années, c'était les raquettes avec des nanotubes de carbone, des choses comme ça. Je sais pas tellement s'il y a une pression sur les scientifiques, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté mot magique de le graphène, le nanotube de carbone, les nanos, où on a tendance à en mettre un peu à toutes les sauces. Et après, je ne sais pas, est-ce que ça change vraiment quelque chose de mettre... déjà, comment sont mis ces nanotubes de carbone dans les raquettes de tennis? Je ne sais pas. Mm-hmm. Et est-ce que ça change quelque chose au-delà d'un argument marketing? Alors après, le coût des raquettes de tennis ne sont pas forcément dangereuses pour la santé, ça dépend.
Bon, se prendre une raquette de tennis dans le coude, par exemple, peut faire très mal. Qu'est-ce que vous... sur la pression industrielle, en quelques mots.
Sur les nanomatériaux et sur la pression industrielle, la première chose, c'est que les nanomatériaux, c'est l'endroit rêvé pour avoir des marchands de rêve et des marchands de peur. Il faut qu'on sorte des marchands de rêve et des marchands de peur. On n'est pas là pour faire rêver les gens, on est là pour les faire réfléchir. Il y a des dangers potentiels, ces dangers potentiels, ils s'étudient. Il y a des gens dont c'est le métier de faire ça, il y a des études qui sont faites. On sait que des particules sont beaucoup plus dangereuses, des nanoparticules, si elles sont longues que si elles sont petites et joufflues. Et je veux dire, il y a un certain nombre d'études qui sont en place et qu'il faut pousser à bout, effectivement, avant de lancer n'importe quoi sur le marché. Mais il ne faut pas pour autant lever les bras au ciel dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je crois que fondamentalement, la pression industrielle qui est là-dedans, la pression industrielle dont vous parlez, est un mythe dans ces histoires-là. La pression industrielle n'est pas un mythe quand vous avez des machins qui sont à très très fort tonnage dans un domaine industriel qui est déjà très bien impliqué. Quand il est très bien implanté, vous êtes dans une situation, évidemment, on me citera toujours le cas de l'amiante, c'est évident, parce que de retirer de l'amiante, c'était un manque à gagner absolument colossal. De faire pénétrer un nanomatériau quelque part, c'est quelque chose qui de toute façon se fera de manière incrémentale. Donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir arrêter de se faire peur juste pour le plaisir. Il faut mettre en place les études qui permettent de savoir si oui ou non c'est dangereux.
Et à 16h53, avec un peu de retard, comme chaque mercredi, nous accueillons autour de la table de la méthode scientifique un ou une jeune scientifique. L'objectif, c'est de nous présenter son domaine de recherche. La contrainte, c'est le temps. 4 minutes, pas plus. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Tacoen. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche chez Saint-Gobain. Bienvenue à la recherche Montre en main. C'est à vous.
Merci. Alors, je vais vous parler d'un matériau qui s'appelle le verre feuilleté. C'est un matériau très courant puisqu'on en trouve partout. On l'appelle plus souvent le verre de sécurité. Donc, par exemple, les pare-brises de voitures sont du verre feuilleté. On le trouve aussi dans les fenêtres des tours de bureaux, les balustrades en verre et aussi, par exemple, les vitres de la pyramide du Louvre sont en verre feuilleté. Donc, qu'est-ce que c'est le verre feuilleté? C'est un matériau composite, donc qui est constitué de deux feuilles de verre, deux plaques de verre de quelques millimètres d'épaisseur, qui enserrent une feuille de plastique sur laquelle elles sont collées. Donc, on a donc une structure de sandwich avec trois épaisseurs. Donc, l'objectif de faire une telle structure est double. Donc, la première raison, qui est une raison historique en fait, puisque ce matériau a été inventé il y a une centaine d'années, le principe de feuilleter du verre. Donc, le premier but, c'était d'éviter la projection d'éclats de verre tranchants lorsqu'on a un impact sur une vitre, donc notamment pour les pare-brises de voitures, c'est dans ce domaine-là que ça a été mis en place pour la première fois. Donc on a besoin, premièrement, d'avoir une bonne adhésion entre le plastique qu'on choisit et le verre. Le deuxième but de faire un assemblage comme celui-là, c'est lors de l'impact d'un projectile. Donc, ça peut être par exemple une pierre sur une fenêtre ou alors un projectile sur un pare-brise de voiture. Le rôle de la feuille de plastique, ça va être de se déformer et d'absorber le choc pour ensuite arrêter le projectile et éviter qu'il traverse la fenêtre ou le pare-brise. Alors donc un verre feuilleté, c'est un matériau qui est très complexe, c'est un matériau composite qui associe deux types de matériaux qui sont vraiment très très différents. Donc on a d'une part le verre qui est très rigide, mais qui est aussi fragile. Donc comme disait Yves Bréchet tout à l'heure, c'est un matériau qui va être rigide, mais qui ne va pas être très résistant à la propagation d'une fracture. Donc quand une fracture se propage dans le verre est détruit, explose. Voilà. Et de l'autre côté, on a ce plastique, donc qui est un polymère, qui est beaucoup plus mou et déformable. Et donc le rôle du plastique, ça va être de dissiper l'énergie lorsqu'on a un choc. Alors juste un petit aparté pour expliquer ce que j'entends par dissiper l'énergie pour un matériau, qu'est-ce que ça signifie ? Donc par exemple, quand on parle de chaleur, on comprend bien de quoi il s'agit. Par exemple, quelque chose qui dissipe la chaleur, c'est quelque chose qui va perdre de l'énergie thermique. Alors dans le cas de la mécanique, c'est un peu la même chose. Par exemple, si je prends un morceau de caoutchouc, donc un élastique, et que je tire dessus, je l'attrape et je tire dessus, je vais devoir exercer une force et donc je vais l'allonger. Donc je vais fournir une énergie mécanique pour l'allonger. Maintenant, si j'arrête d'exercer cette force sur l'élastique, il va revenir à sa longueur initiale tout en tirant sur mes bras. Donc d'une certaine manière, il va me rendre l'énergie mécanique que je lui ai fournie. Et donc cette énergie, elle n'est pas perdue, donc on a un comportement réversible. Et donc ce comportement, on appelle un comportement élastique. C'est pour ça qu'on appelle un élastique un élastique.
C'est QFD.
Voilà. Par contre, dans le cas du polymère du verre feuilleté, ce n'est pas ce comportement-là qu'on va chercher. Si je fais la même expérience et que je prends ce polymère et que je tire dessus, maintenant, si je le relâche, il ne va pas revenir à sa forme initiale et il ne va presque pas exercer de force sur mes bras. Donc, il ne va pas me rendre mon énergie mécanique que je lui ai fournie. Par contre, il va la dissiper. Donc, c'est une énergie qui va être perdue. Donc, ce type de comportement irréversible, c'est ce qu'on appelle un comportement plastique. Et donc, c'est ce type de comportement qu'on va rechercher dans un verre feuilleté. Et on le voit très bien quand on fait les tests industriels donc chez Saint-Gobain, donc c'est des tests qui reproduisent les normes européennes de sécurité des verres feuilletés. On voit très bien que le projectile est arrêté et l'énergie cinétique du projectile est complètement absorbée lorsque le verre se casse et que le plastique se déforme. Donc dans ce matériau, lors d'un choc, il y a une interaction complexe entre la manière dont le verre se casse, les propriétés du matériau, donc de la feuille de plastique, donc comme j'ai dit, sa capacité à dissiper l'énergie, comment est-ce qu'il colle au verre, est-ce qu'il va se déchirer, etc., etc. Et donc c'est ce qu'on cherche à mieux comprendre dans le travail de recherche que je fais. Et donc c'est un problème qui est très appliqué, puisque Saint-Gobain produit des millions de mètres carrés de ce verre feuilleté chaque année. Et donc on cherche en permanence à améliorer les capacités du produit. Donc par exemple, on va vouloir améliorer par exemple sa durabilité, puisque comme disait Bréchet, oui, c'est important la durabilité d'un produit quand on en vend des millions de mètres carrés. On va aussi essayer de l'affiner, donc pour diminuer les coûts de production, tout en gardant une même performance. Et aussi dans l'application, ça va avoir des répercussions, puisqu'un pare-brise plus léger, ça va faire une voiture plus légère, donc on va consommer moins de carburant, par exemple. Et donc pour arriver à cela, on va vraiment avoir besoin de comprendre finement des propriétés de matériaux qui sont assez fondamentales et qui sont pas toutes résolues encore. Même si c'est un matériau qui existe depuis longtemps, on a encore des questions. Par exemple, l'adhésion entre le verre et le polymère, c'est un problème très compliqué. Il y a encore des questions qui se posent là-dessus. Et donc on fait de la recherche là-dessus chez Saint-Gobain Recherche et on collabore également avec des labos de recherche académiques. Donc notamment, il y a une thèse qui va être soutenue bientôt par Paul Elzière sur ce sujet. Je lui souhaite bon courage d'ailleurs.
Merci beaucoup Nicolas Tacouane. Une réaction rapide à ce que vous venez d'entendre, Yves Bréchet. Qu'est-ce que ça vous... C'est un jeune chercheur comme ça en R&D, dans le privé.
Sur un enthousiasme. C'est juste un exemple magnifique de matériaux de grande diffusion avec beaucoup d'intelligence mise à l'intérieur. Et c'est un exemple parfait de ce que j'appelle les matériaux architecturés.
Eh bien voilà, vous êtes un exemple parfait pour Yves Bréchet. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Nicolas Tacouane, félicitations pour votre présentation. Yves Bréchet et François Parmentier, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes aussi, et je ne le dis pas assez souvent, donc je me fais gronder, sur Internet, le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @laméthodefc, et sur Facebook via la page de France Culture. Merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lezen, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Théo Gomard et au droit d'auteur Julie Guéroux. Et demain, on anticipe les journées du patrimoine qui se tiendront ce week-end et on va vous raconter ce que la science peut faire pour venir en aide, pour sauver, pour préserver notre patrimoine architectural et artistique commun.